Interview.
1 du jour.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui nous recevons Maurice Bénin, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler, Maurice Bénin, de votre œuvre en général et en particulier des concerts et spectacles qui seront donnés vendredi et samedi prochain à Habitaire. Nous serons donc les 19 et 20 décembre à Habitaire. Tout d'abord, Maurice, j'aurais souhaité revenir, si vous le voulez bien, sur l'ensemble de votre œuvre et puis poser quelques questions à l'auteur-interprète que vous êtes, puisque vous avez quand même une certaine notoriété. Personnellement, c'est la première fois que j'interroge quelqu'un qui a une telle notoriété.
Détendez-vous.
Mais je suis détendue, ça ne m'empêche pas d'être détendue. Je pense, sans vouloir vous vexer, que peu d'auditeurs d'RDWA connaissent l'ensemble de votre discographie.
Non, je crois qu'on n'est pas très prophète en plus en son pays.
C'est vrai.
Donc j'imagine, et puis c'est pas tellement une région très chanson, on va dire, à texte, quoi. Je suis plus connu en Alsace, dans le Nord et à Paris.
Vous pensez que le Nord, les régions septentrionales sont plus à texte que...
Non, je ne dis pas ça. Je dis que, curieusement, c'est là-bas que mon chant s'enracine, s'ancre vraiment assez profondément. Et puis, ça se vérifie depuis des années, quoi. Non, c'est tous une constatation. J'en tire pas de conclusion particulière.
Ce qui veut dire que vous faites davantage de concerts dans le Nord de la France ?
Ouais. En règle générale, en Bretagne, les régions de prédilection, c'est la Bretagne, le Nord, la région parisienne, le Lyonnais, bien sûr, hein, puisque j'ai beaucoup d'amis. Oui, l'Alsace, bien sûr, l'Est. C'est une grande histoire d'amour avec l'Est. Oui.
D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Maurice Bénin et qui seraient néanmoins fans de chansons à texte, je vous recommande donc de venir au concert, puisque j'ai moi-même donc pu écouter et... alors, pas complètement découvrir, parce que vous ne m'étiez tout de même pas inconnu. Mais j'ai réécouté plus attentivement l'ensemble de vos textes que l'on peut trouver. Je m'en excuse sur internet puisque
non, vous excusez pas. C'est dans l'air du temps.
Malheureusement, voilà, c'est dans l'air du temps. Pour information pour les auditeurs, Maurice, vous avez enregistré plus d'une trentaine d'albums.
Oh oui, c'est vraiment à la louche, hein, mais certainement plus si je compte ce que j'ai fait avec des enfants, avec des ados. Une collection, rien qu'une collection qui s'appelle Pour prendre le large, comprenait 10 CD, donc ça fait largement plus de 30. Mais on va dire qu'en termes de nouveautés, de nouveaux disques, oui, une trentaine. Ouais.
Notamment, là, vous êtes en train de produire et de diffuser donc, le 30 et quelques-tième album en grand public, dont le titre est Infiniment et dont on passera un extrait tout à l'heure, que vous choisirez bien sûr, même si moi j'aimerais bien écouter Swan, bien sûr, mais bon, c'est... J'avais quelques questions sur l'ensemble de votre carrière, avec un peu des points en termes de dates, d'après ce que j'ai pu trouver à nouveau sur Internet. Mmh. Le premier disque en 1967.
Ah oui, oh là là, c'est vraiment...
Je suis remontée.
Dans le paléolithique.
Dans le paléolithique. Mmh. Vous en avez des souvenirs en termes de production ?
Non, c'est ma période bleue, je ne sais pas comment l'appeler, rose, où j'ai naïvement, je pensais me faire une carrière de chanteur classique, quoi. Donc c'est mes 20 ans, c'est Barclay, c'est un peu le showbiz, c'est Paris, tout ça, ça. Et puis ça n'a pas marché, bien entendu, puisqu'on ne m'attendait pas particulièrement. Ce que j'ai constaté, c'est que dans des grosses boîtes comme ça, des Barclays, ben on vous met facilement au rancard, au parking, pour ne pas faire d'ombre à Ferrat, Brel, etc. Et donc, on était toute une petite cocktail de chanteurs à attendre patiemment notre heure de gloire. Et au bout d'un an, deux ans, quand j'ai compris ce processus, j'en suis vite parti. Donc voilà, c'est les années pré-70. Et ensuite, il y a eu effectivement une prise en charge de ma carrière où j'ai commencé à chanter un peu partout dans tout ce réseau associatif, les MJC, les foyers de jeunes travailleurs. Et puis, ça a commencé à grossir jusqu'à cette nuit au Larzac, 73, où j'ai chanté devant plus de 150 000 personnes. Et où là, il y a une histoire d'amour qui s'est créée tout de suite avec un public différent, alternativo, etc. Et voilà, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Pour les générations qui sont plutôt de l'époque ZAD, Notre-Dame-des-Landes, et pour les plus anciens, ouais. Larzac 2003, ouais. Le Larzac en 1976, c'était contre l'occupation du plateau par une base militaire.
Oui, c'est ça, l'extension d'une base militaire. Ouais.
Et voilà, c'est une lutte qui a été couronnée de succès puisque ce projet n'a pas abouti. Donc,
oui, elle est symbolique maintenant, puisque oui. Ça a été peut-être la première fois où les gens se sont rendus compte qu'il y avait un phénomène... parallèle, alternatif, différent, qui allait des néons violents, des paysans, etc., jusqu'aux anards, etc., et que ça ratissait très large. Même Mitterrand était venu, il s'était fait chahuter d'ailleurs au Larzac, cette année-là, 1973 très exactement. Ouais.
Et vous y étiez allé en tant qu'auteur, en tant que militant? Ou simplement vous vous êtes dit, je suis les deux, donc j'ai chanté la cause, pour la cause.
C'est pour la cause que j'ai été. Sauf que je chantais, je commençais à chanter. J'avais plein de chansons que je brûlais de les montrer, de les faire découvrir. Et donc j'étais... Alors c'est tout simple, hein, il n'y avait pas d'agents parisiens qui géraient les plateaux des grands festivals. Donc j'ai été m'inscrire et puis on m'a dit, bah, vous, d'accord, tu chantes à 3h du matin. Et c'est ce que j'ai fait, je chantais pendant une demi-heure à 3h du matin. Mmh. Voilà, c'était très simple en fait.
L'autoproduction, ça consiste en quoi ?
L'autoproduction, ça veut dire ne plus se prendre en charge, ne plus attendre que... c'est un peu comme l'auto-édition dans le bouquin, hein, c'est-à-dire vous attendez pas, vous envoyez pas ça à un éditeur ou à X éditeur, vous attendez que votre manuscrit soit lu. Bah, vous décidez de vous éditer vous-même, donc c'est en termes de disques, c'est ce qui s'est passé depuis le début, c'est ce que j'ai continué à faire, avec des petites parenthèses où il y a eu des petits labels qui ont produit certains de mes disques, mais en règle générale, la plupart sont auto-édités. Mmh. Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est une piste viable financièrement aujourd'hui pour d'autres, pour des confrères ou consoeurs à vous ? Ou est-ce que vous pensez aussi que vous avez le bénéfice de ce qu'il y a de votre âge et de l'ensemble
semer,
de la carrière ?
Oui. Je pense que oui, j'ai le bénéfice de ce que j'ai pu semer, pas de mon âge, parce qu'un chanteur... Qui
c'était
démarrait...
dit sans offense. Hein, mais
non, mais qui démarrait à 60 ans aujourd'hui, il n'aurait pas plus de chance et encore moins de chance qu'un jeune de 20 ans. Non, non, c'est parce qu'il y a eu une histoire d'amour, il y a une fidélité avec un public frère, avec, et puis parce que ce public en a parlé autour, etc. Donc c'est ce, entre guillemets, cet héritage, ce bénéfice-là. Donc, c'est une question abstraite, votre question, parce que je crois que, pour moi, c'est la seule solution, c'est l'autoproduction. Sauf qu'il faut tourner, il faut l'incarner sur scène, son répertoire, ses chansons, mais ça peut être le théâtre, ça peut être n'importe quoi. Un peintre qui se met à peindre, même si c'est merveilleux, s'il ne se montre pas, ce n'est pas la peine, quoi. Voilà. Moi, je dirais, il faut d'abord commencer par intéresser des gens, à voir si ce qu'on a à dire, à chanter... intéresse quelques personnes. Et si c'est le cas, faire confiance au bouche à oreille, faire confiance à la boule de neige qui va grossir. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi.
Aujourd'hui, les gens qui vous écoutent trouvent vos disques par quel biais ?
On ne les trouve plus dans le commerce depuis 3 ans, parce que la petite maison de distribution a périclité. Donc voilà. Je n'ai pas voulu courtiser d'autres grosses boîtes, d'autres boîtes de distribution. Donc on ne les trouve plus que à la fin des concerts, ou que par le biais d'Internet, donc en les commandant, oui. En faisant la démarche, etc. Donc on a ouvert une petite boîte postale sur 10, et puis voilà. Tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai été à la boîte postale, et puis il y avait toc, look, c'est toujours surprise, il y avait 3-4 commandes, voilà. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et, ah oui, non,
donc on peut se passer des réseaux traditionnels.
On peut se passer si on ne nourrit pas de rêves quantitatifs, de gloire, etc. On peut s'en passer, tout à fait, c'est mon cas. Oui, ce qui est important à dire, c'est qu'on engage toujours une souscription avant de sortir un disque. Il y a, par exemple, le dernier disque, Infiniment, il y a à peu près 600, 700 disques qui sont partis uniquement comme ça. Et ça a permis d'avoir la base financière nécessaire, le socle, pour pouvoir le produire, le sortir, l'enregistrer. Ouais.
Je vais avoir une dernière question un peu technique avant d'aborder les textes, si vous permettez. Je voulais vous interroger justement, ça m'intéresse moi à titre personnel, j'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs d'Erdiwa, d'avoir votre regard sur ce qu'est devenu, ce qu'est l'intermittence aujourd'hui. comment, en fait, je n'ai jamais posé la question à, enfin, je n'ai jamais eu l'occasion de poser la question à une personne qui était déjà artiste et qui chantait déjà, voilà, dans les années, ouais, dans les années 70-80. Comment c'était à l'époque et quel regard vous portez, puisque bon, vous travaillez quand même avec plusieurs musiciens et collaborateurs. Ça m'intéressait de voir, d'avoir votre point de vue sur ce qui s'est passé récemment sur l'intermittence.
Alors, je pense que l'intermittence souffre de son énorme succès quantitatif, c'est-à-dire qu'au départ, on était quelques poignées d'intermittents à profiter et utiliser ce statut qui était censé être un statut, je dis censé parce qu'il s'est dévié par la suite, d'aide à la création, en fait. Au départ, c'est ça. Ça permet à des comédiens, à des chanteurs de travailler tranquillement pendant un mois leurs œuvres pour pouvoir le présenter ensuite, pas être étranglé par le quotidien. Au départ, c'était ça, mais c'est devenu très vite une magouille, on le sait, hein, par des boîtes de prod, etc., qui veulent plus salariés et qui utilisent ce statut. Et ça a grossi. Et là, on récolte un petit peu ce... Alors, je suis partagé, parce qu'en même temps, socialement, je trouve que c'est un statut exemplaire. Heureusement qu'il existe, je ne peux pas cracher dessus, puisque pour les raisons initiales, hein. Mais en même temps, je me dis qu'il est, comment dire, il est miné aussi par son succès, par sa facilité, en fait. Quand on sait que beaucoup d'intermittents achètent leur cachet, qu'ils sont obligés de passer par là pour pouvoir survivre, continuer, je me dis qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Alors, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'intermittence. On avait des vignettes sécu qui couvraient à peine notre sécurité sociale. Voilà, on était à la sécu, point barre. Et puis, on économisait pour les moments où c'était difficile, c'est tout. On faisait notre propre statut d'intermittent, en clair. Hein. Mm-hmm. Bon, c'était une prise en charge aussi. Moi, je suis un peu un maquisard. Je ne suis pas très bien placé pour répondre au niveau politique, social. Mais je porte témoignage que c'est un statut qui, en même temps, un peu se bouffe la queue parce qu'il est engendré par une belle idée de création. Et en même temps, il est larvé parce que, justement, il a dévié vers autre chose, quoi.
Je vous remercie. Sur l'ensemble de vos œuvres, vous avez des textes qui sont à la fois très poétiques, très engagés. Moi, j'ai écouté à plusieurs reprises et c'est celui qui m'a un peu... qui m'est revenu, que j'ai eu envie de réentendre avant de venir, mais que je serais incapable de dater, c'est le texte « Des forces ».
Des forces, d'accord.
Je serais incapable de le dater. Si vous l'aviez écrit hier, je pense que ce serait valable, mais je ne pense pas que vous l'ayez écrit hier.
Non, je l'ai. Et non seulement je ne l'ai pas écrit tout court, parce que c'est une chanson que j'ai empruntée à un ami qui s'appelle Bruno Ruiz, qui en a écrit paroles et musique. Donc vous touchez là à quelques rares chansons qui ne sont pas de moi. Et Des forces date de 2006-2007, à peu près.
Pas si vieux,
qui est dans l'avant-avant-dernier disque, qui s'appelait donc Des Forces, effectivement.
Alors j'ai écouté les autres morceaux qui sont, qu'on peut écouter sur votre site, hein, dont les auditeurs pourront retrouver l'adresse sur le site de RDWA, donc à mauricebénin.fr, il me semble, ou quelque chose dans ce coup-là, mais donc à retrouver sur le site d'RDWA. J'ai écouté également avec attention Les Pays n'existent pas, qui, elle, est de vous.
Oui, bien sûr, elle est de moi, mais elle n'est pas léolithique, elle, par contre. Je l'ai écrite, c'est la période du Larzac, cette chanson-là. C'est une chanson un peu comme « Plus tu es heureux », comme « Je vis ». Ce sont des chansons qui ont un peu marqué les esprits du public
première heure. Et par rapport à ces textes et musiques de la première heure, aujourd'hui, vos textes sont... Vous les sentez différents? Est-ce que au niveau des arrangements, vous avez cherché quelque chose de plus contemporain ou vous êtes resté dans la veine de...
Au niveau de la forme musicale, oui, ça a certainement évolué puisque là, c'était vraiment guitare, voix, quelquefois une contrebasse ou un violoncelle ou une deuxième guitare, mais grand max, non? Aujourd'hui, je crois que je m'entoure, j'aime cet alliage musical et notamment induit par mon fils Hugo qui a 25 ans et qui a trouvé donc des amis à lui musiciens. Et je suis très heureux de faire cette jonction avec la nouvelle génération de musiciens. Ça me plaît. Je crois que la source est la même pour répondre à votre question. La source, au niveau de ce que j'ai à dire, c'est à peu près la même source, mais je le dis différemment, et je crois qu'en croisant des poètes, des grands poètes, j'ai commencé à être un peu plus exigeant quant à mon écriture. Voilà, et je suis peut-être moins furieux qu'avant, moins colérique, j'ai moins d'accès d'adrénaline qu'à une époque où là il le fallait. Enfin, je renie pas du tout, mais voilà, je suis passé un petit peu, je me suis un peu tranquillisé, oui.
Bon, pourtant, on peut encore se mettre en colère. On va tout de suite écouter un extrait de Infiniment, donc l'album de cette année, de 2014. Je vous laisse choisir.
Eh bien, écoutez. On n'a qu'à mettre la première, puisqu'elle va bien illustrer ce que j'étais en train de dire. Ici, c'est une chanson d'ode à cette petite île bretonne qui s'appelle Watt. Et c'est pour retrouver simplement cette force en soi, cette jonction avec la mer, avec l'infini de la mer.
Ici, la mer s'invite au grand silence. Tout ici devient essentiel au moindre bruissement du vent. Ici, tout nous conduit jusqu'au rivage. Le ciel, les rochers, le ressac, voilà tout le paysage. Car quelle que soit la direction, où que l'on aille, nous retournons vers l'autre partie de nous-mêmes enfouis. Ici. Ici. Tout est simple, majestueux. Tout prend du sens et du relief. Tout est puissant, précieux. S'éloigne une chiclée de mouettes, piaillant au plus loin le désir de se fondre dans la tempête. Car l'être ici puise une force avant de s'en remettre au monde où se côtoient les anges et les cloportes. Notre époque passe l'obscur, coincé entre la bête et l'homme, entre la conscience la plus pure et ce goût de l'opprobre. Mais ici, un miracle s'accomplit. L'âme soigne sa blessure par le simple fait d'être ici. Ici, notre faiblesse devient féconde. L'infime nourrit le sacré, pacifiant chaque seconde. Car quels que soient nos SOS, la mer aspire notre détresse, nous ouvrant à l'infini de la quête, ici. Ici, le sable étendu cardinal, un ciel bigarré, tourmenté, une barque comme un signal. Ici, l'océan pose des questions, poussant sa longue démesure jusqu'à l'ouest, jusqu'au couchant. Car l'homme ici tête la mer avant de partir solitaire au cœur de la grande énigme solaire. Ici.
Vous Vous êtes toujours sur le 107.5 FM, sur RDWA et sur www.rdwa.fr. Nous écoutions donc le morceau Ici de l'album Infiniment de Boris Bénin. Un peu de promotion puisque vous jouerez ici, je suppose, et les autres morceaux à Habiter ce vendredi 19 décembre à 20h30. Une formation réduite avec deux musiciens et vous-même.
Oui.
Vous laisse les présenter.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a deux spectacles, mais qui sont de nature complètement différente. Le premier, le 19, donc vendredi, ce sont mes chansons. C'est surtout mes nouvelles chansons, qui s'appelle Infiniment, d'ailleurs, le spectacle. Je serai accompagné de deux musiciens, donc Dominique Dumont, guitariste et chant aussi, et mon fils Hugo, percussion et chant également. Voilà. Et le lendemain, ce sera Florilège. Rien à voir, c'est un spectacle pour les enfants, en direction des enfants. Et avec sa particularité, c'est que c'est des textes écrits avec des enfants, principalement, et que j'ai mis en musique, et qui ont été interprétés. Ils ne sont pas, puisqu'on ne peut pas les déplacer, mais par les enfants de l'école du Colibri aux Amanins. Mmh. Le lendemain, rien à voir, ça sera donc pour les
tout pour public. Les enfants. Vous avez créé et écrit beaucoup pour les enfants. Ça a été lié à votre paternité ou vous en aviez fait avant?
Je crois que depuis le début, j'ai toujours gardé ce lien avec les enfants, même avant d'en avoir. Mais certainement, c'est alimenté, c'est ressourcé par tous les enfants que j'ai eus d'âge divers. Et moi, j'ai jamais voulu écrire pour les enfants. J'ai toujours suscité des ateliers dans des écoles, des bibliothèques, etc. J'ai même animé longue durée un atelier à Chabeuil qui s'appelait Artiste en herbe. Puis donc, la dernière expérience aux Amanins. Tout ça a tout naturellement engendré des spectacles, des disques, des enregistrements avec des enfants. Mais toujours en mettant en avant les mots, le message qu'ils avaient à nous adresser, eux, par voie ludique, par voie d'images enfantines, bien sûr. Mais pour moi, c'était beaucoup plus intéressant qu'écrire à leur place.
Donc j'espère qu'il y aura un jour un atelier avec les enfants du Diwa, puisque vous êtes Diwa depuis quelque temps, mmh, et qu'on profite de nouvelles compositions
des
enfants avec vous-même. Je rappelle donc les données techniques et pratiques et logistiques pour ces deux spectacles. Donc vendredi 19 décembre à 20h30, avec une petite participation de 10 euros, donc c'est dans la salle commune d'Habiter.
Alors Habiter, faut peut-être signaler, tout le monde ne connaît pas, c'est près
tout le monde ne connaît pas, donc
près
c'est
du VVF.
Le VVF qui est au-dessus de Digne, au quartier Combes. Et le samedi 20, donc à 16h30, au même endroit, à la salle toujours d'Habiter, en partenariat cette fois avec l'association de la Corderie, que la plupart des auditeurs, je pense, pour le coup, connaissent, mm-hmm, qui est cette association d'échange qui a été créée à Digne il y a quelque temps déjà maintenant. Je crois que ça fait bien 2 ans qu'ils existent.
Oui, je pense, au moins 2 ans, oui.
Le spectacle qui s'appelle Florilège.
Important à dire, c'est qu'on peut ensuite rester en amenant pour le premier soir donc des mets divers et variés. On peut continuer la soirée en picorant ensemble. Et idem, on goûtera ensemble après le spectacle Florilège. Il faut signaler aussi, important, qu'il y aura Claire Bartoli, la conteuse, qui fera une petite première partie le lendemain, donc le samedi, de contes.
D'accord.
De son invention pour les enfants.
Donc samedi, tous les parents qui veulent éviter les niaiseries de Noël, je vous propose de venir plutôt goûter à Habiter à partir de 16h30, donc pour les spectacles de contes et de musique, et pour les plus grands, plutôt le vendredi soir à 20h30 à Habiter. Maurice Bénin, merci.
Ouais.
Et à bientôt.
Comment vous vous appelez?
Donc c'était Thaïs pour l'interview d'RDWA.
Thaïs, d'accord. Au revoir Thaïs.
C'est une interview que vous pouvez, comme pour toutes les émissions, podcaster sur le site de RDWA sur www.rdwa.fr. Au revoir. Oh,
me dis que c'est lui qui me protège. Dans le fond, avec l'innocence qui perle de partout du haut de ses deux ans, il est le grand initiateur, professeur de non-vieillissement. Quand il m'appelle papa, déboule en moi tous mes ancêtres, toutes ces cohortes paternelles, issues d'une marche séculaire. Mais ce qui parfait le tableau, c'est qu'il a choisi pour maman une femme source, une mère roseau, humant le vent. Tous deux, évidence incroyable, ont l'amour chevillé au cœur. Ils sont ces êtres improbables d'un nouveau monde précurseur. Alors me voilà requinqué par leur force tendre et rebelle. J'ai pu que me laisser porter à leur soleil. Et le regard si puissant que l'aimer devient un miracle qui me rend bon. Transige pas avec la tiédeur, pactise pas avec les peut-être, il m'enseigne l'opiniâtre bonheur.